Soyons d'attaque. Soyons d'attaque. Une émission d'information et de débat proposée par Attaque Savoie.
Avec
Lise,
Florence
et Phil. Bienvenue à Soyons d'attaque, épisode 1. Donc, sur le thème, un thème local, un thème sur le Lyon-Turin. Car Attaque est une association mondiale qui lutte sur tous les plans pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Mais Attaque Savoie est également des luttes locales. Et c'est dans ce cadre-là que nous vous présentons cette première mission sur le thème du projet de nouvelle ligne ferroviaire. Pourquoi nous défendons la ligne existante ? Et qu'est-ce qui nous perturbe dans ce nouveau projet de ligne ferroviaire? C'est ça les questions auxquelles nous essayons de répondre aujourd'hui. Nous allons pour cela faire le point avec des gens qui savent de quoi ils parlent et recevoir quelques invités bien informés sur le sujet. Le premier d'entre eux, Gérard, va être interviewé par Florence. À toi, Florence.
Nous sommes très heureux d'accueillir à présent Gérard Pégase-Toquet, qui est de France 1. Eh bien, il va se présenter. Bonjour, Gérard.
Bonjour. Oui, je suis le trésorier de l'association Vivre à France 1. C'est une association qui a démarré en 1991, 33 ans déjà, et plus de 15 ans de combat de 91 jusqu'à pratiquement 2005. Donc cette association avait pour but de défendre notre territoire, puisque le premier projet de la SNCF, c'était sur la commune de France 1 de prendre 90 hectares d'un côté et 50 hectares de l'autre pour faire soit une gare TGV provisoire entre Chinien et Montmélian et un nœud ferroviaire dans la plaine de Chaparayan. Donc bien sûr, nous, habitants de la commune, nous avons tout de suite monté une association dans les années 92 et nous avons eu beaucoup de militants tout de suite qui ont adhéré à cette association.
Oui, donc en fait, ce projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin, vous en avez entendu parler pour la première fois dans les années 90-91. Et donc, à l'époque, ce projet consistait en fait juste sur du TGV. On ne parlait pas de fret.
Alors, en 91, quand la commission de la SNCF est venue dans nos villages pour nous présenter le projet, on parlait uniquement, effectivement, d'un Lyon-Montmélian voyageur. On ne parlait pas encore de ferroutage.
D'accord, ok. Et à l'époque, ce projet, vous vous y opposiez ? Pour quelle raison ? Vous vous étiez opposant ou pas trop ? Alors, comment ça s'est passé ?
Alors, au départ, on était opposant. Il faut savoir que chaque commune, Bihan, Apremont, Saint-Baldoff, nous avait rejoint, chacune commune avait une association, de façon à ce que chacun défende son territoire.
Ok, alors comment s'est concrétisé votre bagarre ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quelle action vous avez menée ?
Alors tout d'abord, les associations se sont réunies pour savoir ce qu'on allait faire, et ce qu'on allait surtout défendre ou protéger. Donc, on ne voulait pas d'un tracé entre Lyon et Montmélian. On voulait plutôt un tracé qui vienne donc en sortie du tunnel au niveau de Chaparayan pour rejoindre en face d'Étrier, à condition que ça soit un ferroutage.
Ok, et vous étiez nombreux sur cette bagarre ? Vous avez fait des manifs ?
Faut savoir que c'était très important, puisque chaque association, il y avait à peu près 150 familles par association, donc dans des petits villages ça fait beaucoup. Et surtout, il y avait un esprit d'entraide entre nous. Tout le monde avait la même position pour défendre ce projet, surtout de ferroutage en premier, pour la traversée donc entre Lyon et Montmélian et bien sûr Turin par la suite.
Ok. Et vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui. Alors donc, c'était un tracé qui pénalisait 9 communes sur 12 km de voies nouvelles. Et il y avait plus de 250 maisons qui étaient impactées. C'est un tracé qui imposait donc cette gare provisoire pour 10 ans sur Chilien et Francin, dans l'attente d'une future gare au sud de Montmélian. Un tracé qui nécessitait le déplacement d'autoroute entre Mian et Chilien et le passage du TGV sous la route nationale 90. Un tracé qui réclamait aussi le déplacement du cours d'eau, le Bond de Loge, qui longe la nationale. Et il y avait un tracé surtout qui demandait la construction de 2 échangeurs de 6 voies ferrées sur Mian et Sainte-Hélène-du-Lac. Donc je vous laisse imaginer un peu le désastre. Et bien sûr, le tracé, il affectait le vignoble AOC, sur la région d'Apremont, bien sûr, et à Mian. Et un tracé qui entraînait la disparition de plus d'un tiers de la commune de Mian, entre le déplacement de l'autoroute et le TGV. Donc voilà, quelques rappels quand même. On a eu 115 réunions, conférences ou débats sur le TGV, entre 1992 et à peu près 2004. On a eu l'étude de dizaines de dossiers techniques sur les infrastructures de transport et de l'aménagement du territoire. L'envoi de 25 000 tracts d'information sur les communes de la Cluse, puisqu'on manifestait jusqu'à Chambéry. L'édition d'affiches, bien sûr, sur le bruit, les schémas des tracés et les pétitions qu'on a pu organiser. Alors, on a fait beaucoup de manifestations dans les rues de Montmélian, en 92-93, des tracts au péage autoroutier à Chilien ou à Chambéry, le blocage de trains, des expositions sur le ferroutage à Champs-Nord, de nouveau des manifestations au péage autoroutier en 95.
Ah, bravo.
Et bien sûr, l'envoi de 280 courriers officiels aux élus et au pouvoir public. Et bien sûr, avec très peu de réponses. Une information médiatisée sur nos actions et nos positions. Et l'adhésion à un collectif d'associations qui s'appelait Collectif Savoie 2010, Chartres du transport à travers l'arc alpin. Puisque par la suite, dans les années 96, toutes les associations dans l'avant-pays savoyard et celle de la Cluse de Savoie, plus nous sur la Combe de Savoie, on a fusionné pour faire une seule association, de façon à être beaucoup plus percutant par rapport aux élus et au pouvoir public.
Ok, et donc pourquoi finalement, au bout d'un certain temps, vous avez arrêté la bagarre?
Alors, on ne peut pas dire arrêter la bagarre, mais il s'est passé que dans les années 2005-2006, le TGV, la mayonnaise est retombée. C'est-à-dire qu'on en parlait beaucoup moins au niveau national. Et de plus, bien nous, on avait quand même nos carrières professionnelles d'un côté. On a profité de ce mouvement pour se glisser dans les élections dans les conseils municipaux, sur les communes de Mian, Apremont, Saint-Baldoff, Francin, avec des réussites, des échecs. Et donc, les carrières professionnelles ont beaucoup joué aussi, puisqu'à l'époque, bien sûr, hein, on avait tous des charges de famille, et c'était difficile après de se libérer. Quand on pense déjà à toutes ces réunions qu'on a faites, 115 réunions, je disais au départ, ça fait quand même beaucoup.
Et il est à noter qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de mail.
Oui, mais il y avait quand même le téléphone normal.
Tout à fait. Merci Gérard, merci beaucoup.
J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Et je pouvais t'imaginer toute seule abandonnée sur le quai dans l'inconnu des eaux. J'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi. J'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu
me retenir. Mais que c'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Sifflez le train, sifflez le train. Oui, j'entends siffler le train. Que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Sans un adieu, je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais que c'est loin où tu t'en vas, que c'est loin où tu t'en vas. Auras-tu jamais le temps de revenir? Et siffler le train, oui j'entends siffler le train, j'entendrai siffler ce train toute ma vie, j'entendrai siffler ce train toute ma vie. Siffler ce train toute ma vie.
Nous sommes maintenant très heureux d'accueillir Fred qui va se présenter.
Ben bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je m'appelle donc Frédéric, oui, j'habite en Combe de Savoie, entre Saint-Pierre-d'Albigny et Albertville. Et je m'intéresse à la lutte, parce qu'il faut bien parler de lutte, du Lyon-Turin depuis environ 2 ans.
Et on a entendu dire que vous militiez dans certaines associations et que vous avez également une communication en place avec un journal.
Oui, oui. Alors effectivement, il y a une coordination donc, qui s'est montée il y a un an et demi à peu près, qui regroupe des associations, des organisations, des syndicats, des partis politiques au niveau de la région. Et puis, effectivement, on a développé quelques outils de communication en interne et puis en externe. On diffuse un journal et puis on organise quelques événements, comme on a pu faire, par exemple, au mois de juin dernier à Aoste. Différentes manifestations aussi, des locales ou régionales.
Ok, merci beaucoup. Alors, on parle toujours de projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Ce projet peut-il encore s'appeler projet? Et pouvez-vous nous le décrire aujourd'hui?
Ouais, alors, donc ce projet, en fait, on en parle depuis 35 ans maintenant, hein, c'est depuis la fin des années 80. C'était porté au départ par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Besson en particulier, qui était maire de Chambéry, qui a été ministre sous gouvernement Mitterrand. Donc ce projet ne date pas d'hier. Et au départ, il était, on parlait uniquement d'une ligne à grande vitesse pour voyageurs, qui devait mettre Paris à 4h de Milan et Lyon à 2h de Turin. Donc ça, voilà, c'est en gros pour vous dresser l'origine du projet. Est-ce qu'on peut encore parler de projet aujourd'hui? Donc je pense, sous-entendu, est-ce que c'est encore à l'état de projet ou c'est à l'état de chantier et prêt à démarrer? Je ne sais pas si c'est le sens de votre question.
Tout à fait.
C'est ça. Donc moi, en plus de militer, je suis dans mon travail, je travaille sur des projets. Alors dans l'informatique, il se trouve, mais bon, c'est toujours des projets. Et dans ce sens, en fait, un projet, se segmente en différentes parties. Donc vous avez d'abord une partie de conception, d'études, ensuite de réalisation, ensuite d'essai et ensuite de mise en service. Entre les deux, selon la criticité du projet ou sa nature, on peut aussi avoir une certification à obtenir. Par exemple, pour la mise sur le marché d'un médicament, même si votre médicament a passé tous les essais, bah, tant que vous n'avez pas l'autorisation, vous ne pouvez pas, le mettre sur le marché. Donc là, aujourd'hui, sur le Lyon Turin, pour spécifier vraiment sur notre exemple précis, il y a une partie du projet qui a démarré. Donc les études ont été faites, donc il y a déjà 20 à 25 ans, et la première partie qu'on appelle donc le tunnel transfrontalier, qui est dit aussi tunnel de base, qui est donc un tunnel qui va être creusé entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse en Italie. Ce projet-là a démarré et un certain nombre de kilomètres ont déjà été creusés. Voilà. Par contre, la deuxième partie du Lyon-Turin, ça, c'est ce qu'on appelle les accès. Et là, les accès, rien n'a encore été fait en termes de réalisation, et ni même en termes d'études.
Ah, donc, c'est très intéressant.
Voilà, donc il y a du projet, il y a de la réalisation en cours, mais ce sont des projets tellement longs et énormes qui se situent sur une géographie assez... donc il y a 270 km hein, entre Lyon et Turin. Donc ils segmentent le projet parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Ils n'ont pas les ressources de toute façon pour faire tout ça. Et si on rentre un peu plus dans le détail du projet, on va voir qu'il faudrait des ressources énormes pour pouvoir simultanément creuser 270 km de tunnel, puisque au total, il y a 270 km de tunnel à creuser.
Et dans ces tunnels, est-ce que vous nous confirmez qu'il y aurait dans ce tracé dit grand gabarit, qui concerne le ferroutage, le percement d'un tunnel sous Chartreuse, suivi du percement d'un tunnel sous Belledonne, et après tout ça remonte sur Turin.
Oui, alors effectivement, alors dans la partie accès, en plus du tunnel donc transfrontalier dont je parlais, dit tunnel de base, il y a deux tunnels côté italien qui font à peu près 20 km chacun, et il y a 6 ou 7 tunnels côté français, entre Saint-Jean-de-Maurienne donc et Lyon. Je dis Lyon parce qu'en fait, il y a le tunnel de Belledonne que vous avez mentionné, il y a le tunnel de Chartreuse, il y a le tunnel du Glandon également, qui doit faire une dizaine de kilomètres, et il y a des petits tunnels sont vers l'île d'Abo, tout ça, qui sont entre 2 et 7 kilomètres. Donc au total, le nombre de ces tunnels fait 270 kilomètres. Ce sont soit des tunnels bitume, parce que la réglementation pour le trafic voyageur oblige de séparer les tubes dans un sens et dans l'autre, sauf pour une partie qui serait réservée pour le fret, où là il y a un tunnel monotube. Donc je vous passe les détails. Enfin voilà. Ce qui est important à retenir en fait, c'est que quand on parle aujourd'hui, la communication de TELT, qui est le promoteur du projet, tourne autour du tunnel de base qui est en cours de percement. Par contre, il faut savoir que l'ensemble du projet constitue tout un ensemble de tunnels, et les délais, quand on vous parle de mise en service de la nouvelle ligne Lyon-Turin en 2030 ou 2032, ne tient évidemment pas compte de tout ça.
Ah oui, on était loin de s'imaginer ça.
Oui, et avez-vous une idée du financement, du coût total de ce projet Lyon-Turin? Comment, à l'époque où il n'y a plus de sous, combien ça coûte cette histoire?
Ouais, alors, on a une idée évidemment. Hein. Alors, tout ce que je vous dis là et tout ce que je documente à travers notre coordination, les comités contre le Lyon-Turin, toutes les informations que vous remontez des personnes qui travaillent dessus depuis côté italien depuis 20 ou 30 ans, ou côté français, les lanceurs d'alerte qui travaillent depuis plus d'une dizaine d'années sur le sujet, toutes les sources, les données, les chiffres sont issues de documents officiels des administrations ou de TELT, le promoteur lui-même, ou de SNCF Réseau. Donc là, pour répondre à votre question précisément, parce qu'il y a plein d'autres chiffres, mais je ne vais pas aujourd'hui vous asséner de chiffres, il y a quand même quelques notions à avoir d'ordre de grandeur. En 2012, donc la direction du Trésor estimait à 26 milliards d'euros le coût du projet total.
Wow.
Voilà, 26 milliards d'euros. Ça, c'est en 2012. Alors, depuis, il y a une réévaluation qui a été faite par la Cour des comptes, etc. Aujourd'hui, on s'accorde à dire que ce serait environ 30 milliards d'euros, mais 30 milliards d'euros, c'est une estimation à l'instant T. Ça ne préjuge pas de l'explosion des coûts des matériaux, par exemple. On l'a vu, par exemple, le coût de l'énergie qui a augmenté depuis 2 ans avec la crise en Ukraine. Les aléas techniques qui sont inhérents à ce type de projet. Il y en a déjà eu cette année, enfin, sur le puits d'Avrieux, par exemple, il y a eu des éboulements qui les ont obligés à construire un robot projeteur de béton spécifiquement pour combler ces cavités. Donc, ça a un coût, tout ça, évidemment, ce n'est pas prévu au départ. Et on connaît très bien le mécanisme de ces grands projets. Donc, nous, on appelle grands projets imposés et inutiles, hein, pour le préciser. Quand on regarde par exemple l'EPR de Flamanville, qui a été estimé au départ à 4 milliards, on a fini à 19 milliards.
Mmh. Oui, donc avec là, une mise en service récemment. Voilà,
alors, bien sûr, tout à fait, une mise en service. Ben là, au mois de décembre, c'est très récent ça. Et donc, une mise en service 12 ans après la mise en service prévue. Donc, non seulement il y a des dérives dans les coûts, il y a des dérives dans les délais, les deux sont liés évidemment. Donc voilà, il est très difficile d'évaluer ça. Tout ce qu'on peut dire, en fait, c'est que tout ça, c'est de l'argent public. Et qui le finance? C'est pour répondre à la deuxième partie de votre question, au-delà du montant, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu des accords, un traité signé entre la France et l'Italie. Et donc, en gros, il y a deux financeurs, c'est la France et l'Italie. Alors, l'Europe est derrière ça parce que le Lyon-Turin est une portion du réseau de transport européen ferroviaire qui va de Algésira en Espagne jusqu'à la frontière slovène. Donc c'est une toute petite partie. Et l'Europe subventionne tout ce réseau pour différentes raisons, pour la mobilité en Europe. C'est un espèce de grand RER, si vous voulez, quand on regarde la
oui,
carte.
Oui, l'image est parlante.
Voilà, c'est un peu ça. Et donc l'Europe donne des subventions régulièrement par intervalle. Il y a tout un mécanisme, là je ne pourrais pas vous le décrire en précision parce que c'est très difficile d'obtenir des informations sur ça, même si des gens y travaillent. Et puis des informations sont disponibles sur les sites de l'Union européenne, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a une certaine omerta quand même derrière ça. On sait que... certaines sommes d'argent sont allouées par l'eau pour des activités bien précises, que le montant de subvention de l'Europe varie de 40 à 50% selon le type d'activité, par exemple. Mais on ne sait pas, on ne sait pas à l'euro, combien est alloué chaque année. Enfin, on a des ordres de grandeur. Voilà. Mais en gros, au final, de toute façon, il y a une partie financée par la France et l'Italie. De toute façon, le budget de l'Europe, il faut bien savoir que c'est le budget des États. L'Europe ne laisse pas d'impôts.
Creatures who admit their weakness, reaching out for help when times are bleakest. We hold it in and pretend it's opposite of what we think it is. Instincts inset for a reason. To avoid is treason. Involution's all means of prevention, keeping you from tasting the poison. It's natural selection, yet intelligence is testing boundaries. Why am I chasing happy when I have companionship, success and money?
Pouvez-vous rapidement, parce qu'on n'est pas là pour lui faire de la pub, pouvez-vous rapidement nous parler du promoteur Telt?
Oui, vous l'avez évoqué alors, quelques fois, et il est intriguant ce sigle TELT.
Ouais, alors TELT, ça veut dire tunnel européen Lyon-Turin. Donc c'est un groupement qui fait suite, qui a été créé suite à Lyon-Turin Ferroviaire, qui a été constitué en 2015. Et qui est à parité 50% État français, 50% État italien. Voilà, c'est les actionnaires sont les États français et italiens. Hein, c'est pas une société privée.
D'accord.
Des actionnaires comme d'accord. ça, ce sont les États. Et en termes de gouvernance, bon bah le président est un Français et le directeur général est un Italien. Voilà. Et la mission de TELT, en fait. Ce TELT est une petite société, hein. Il y a 200 salariés, je crois. Le siège est à Chambéry, en France. TELT, c'est ce qu'on appelle dans un projet, puisqu'on parlait tout à l'heure de projet, c'est le maître d'ouvrage. Donc, un maître d'ouvrage dans un projet, c'est celui qui compte les sous, en fait, et qui attribue les contrats de maîtrise d'œuvre à des bureaux d'études. Donc, il y a une quinzaine de bureaux d'études qui sont mandatés sur le projet. Donc, soit pour la réalisation, soit pour les études en amont. Et ces bureaux d'études, eux, font des appels d'offres à des entreprises qui vont réaliser. Donc des entreprises du BTD, hein, comme les SAG, des entreprises d'études diverses et variées, des entreprises qui vont mettre en place tous les automatismes sur les lignes. Voilà.
Okay.
Donc, c'est un gestionnaire, c'est lui qui tient les cordons de la bourse, en fait.
D'accord. Ok. Alors, pour avancer toujours, aujourd'hui, en ce début d'année 2025, où en est-on des travaux? On a entendu dire que un quart du tunnel était creusé, par exemple. Que se passe-t-il en Maurienne?
Oui. Alors un quart. Alors, effectivement, si vous allez sur le site de TELT, j'y suis retourné ce matin pour vérifier leur communication. Ils disent qu'aujourd'hui, je crois que ce matin, c'est 39,3 km de galeries creusées. Alors, c'est vrai. Simplement, dans ces 39,3 km de galeries creusées, il y en a une vingtaine qui ne sont pas le tunnel de base dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a le tunnel haut gabarit qui sera bitube, celui-ci. Mais ce sont 20 km de descendries, ce qu'on appelle des descendries ou des galeries d'accès au tunnel, qui permettent d'acheminer du matériel, et en particulier les futurs tunneliers qui creuseront le tunnel. Donc c'est à la fois vrai et faux, parce que le tunnel de base, donc qui fait 2 × 57,5 km, donc en tout 115 km, lui aujourd'hui il n'y a que 14 km de creusé.
Mmh.
Donc ça fait à peu près 10%, enfin 12% de creusé sur le seul tunnel de base, hein, bien sûr, parce que si je compare ces 15 km, 14 km de creusé sur les 270 km en tout, bon là on en est à quelques pouillèmes, quelques pourcentages. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que creuser ne veut pas dire exploiter ou mettre en service. Une fois que vous avez creusé, il y a tout le reste à faire.
Oui, il n'y a que des trous pour l'instant.
Voilà, pour l'instant c'est un trou, voilà, et un trou. J'en profite pour faire une aparté parce que on nous dit justement que le tunnel du Mont-Cenis, le tunnel historique de la ligne actuelle, en fait, est un vieux tunnel qui a été creusé entre 1857 et 1871. Mais bon, peu importe. La ligne 1 du métro à Paris, elle date de 1900. Et aujourd'hui, on est capable de faire passer un métro tous les 80 secondes à Paris. Donc l'essentiel, ce n'est pas le trou, en fait, c'est l'aménagement.
Mais oui. Ouh, que c'est judicieusement dit tout cela. Merci Fred. On va continuer un peu à avancer parce que la question qui va suivre risque d'être un petit peu longue aussi. On va parler du trafic de marchandises, le fret. Et on nous oppose que la ligne existante, puisque nous rappelons que nous défendons la rénovation de la ligne existante et nous nous opposons à ce nouveau projet. Et qu'en est-il donc de cette ligne existante? On nous dit qu'elle est obsolète, on nous dit qu'elle est trop pentue, enfin on nous dit plein de choses. Qu'en pensez-vous?
Alors là, il faut distinguer deux périodes. Aujourd'hui, on est un petit peu embêté parce que la ligne est coupée depuis août 2023. Comme vous le savez, il y a eu un éboulement à la Pra, juste en face d'une descenderie, d'ailleurs, entre parenthèses, qui a été creusée à l'explosif, et de l'autre côté de l'autoroute. Donc, le trafic est interrompu aujourd'hui entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. Okay, aujourd'hui, les gens ne peuvent plus prendre le train. Donc, il y a des bus qui sont mis à disposition pour ça. Donc, je mets entre parenthèses cet incident.
Y compris pour les vacanciers skieurs, d'ailleurs, actuellement, puisque c'est la saison.
Oui, tout à fait. On pourrait rentrer dans le détail de beaucoup de choses aussi sur la façon dont on s'y communique là-dessus, mais bon, ça risque de nous emmener un petit peu loin. En tout cas, mettons-nous avant cet éboulement. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a eu un rapport fait par un ingénieur des ponts et chaussées en 1998 qui établissait qu'il passait 120 trains de fret à Modane dans les deux sens tous les jours et une vingtaine de trains de passagers. D'accord. Donc ça fait 140 trains. Il se trouve que ce rapport préconisait aussi de faire des travaux d'aménagement, de sécurisation au niveau du tunnel historique, donc le tunnel du Mont-Cenis. Hein. On appelle le tunnel du Mont-Cenis le tunnel ferroviaire et qui on distrait juste le tunnel routier. Ils sont à côté, hein, quasiment. Et donc de faire ces travaux-là pour un coût de 1 milliard. Travaux qui ont été réalisés entre 2006 et 2012. D'accord. C'est 40%, donc 400 millions qui ont dû être pour la rénovation du tunnel et puis le reste sur la ligne. Parce que la ligne, en fait, c'est la ligne Dijon-Modane. Hein. Donc, il y avait des parties qui n'étaient pas électrifiées, en particulier sur cette ligne. Donc, ça a été aussi fait. Il y a eu d'autres travaux que sur le tunnel. Du coup, l'équation que nous, on met toujours en avant, c'est celle-ci. C'est donc 120 trains de fret plus 20 trains de passagers. Donc, 140 trains en 1998 plus 1 milliard. Là, qu'est-ce que ça devrait donner après 2012, jusqu'en 2022, ça devrait donner au moins 140 trains. Parce que sinon, c'est un petit peu bête d'avoir investi 1 milliard pour ne pas faire aussi bien.
Oui.
En fait, le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est qu'on est à 27 trains.
Ah, 27
voilà. 27 trains. Voilà, 20 trains de fret et 7 trains de passagers. Ce sont les chiffres de la SNCF. Non. Donc, il y a chercher l'erreur.
Tout à chercher fait. L'erreur. Voilà. Tout à fait, cherchons l'erreur.
Alors, ce qu'on dit, nous, c'est que donc, cette ligne est sous-exploitée, d'accord ? Et que si on faisait aussi bien qu'il y a 25 ans, on serait capable de faire passer à minima deux tiers des poids lourds qui passent entre le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du Fréjus sur le rail.
Ah oui.
Voilà. Tout simplement, en fait, c'est un calcul tout simple et on prend même des hypothèses minimalistes. Hein, vous voyez, on ne prend même pas 140 trains, on dit 100 trains par jour, 30 positions, c'est-à-dire l'équivalent de 30 camions. Okay, donc ça fait 3000 camions par jour, 300 jours par an. On n'est même pas à 365 jours, parce qu'on pourrait rouler 365 jours. Et donc ça nous fait 900 000 poids lourds. Il faut savoir que, contrairement à ce qui a été prévu justement à l'origine du projet, ça j'en ai pas parlé, mais qu'est-ce qui justifie à l'époque, dans les années 90, le choix d'une deuxième ligne, c'est des prévisions de trafic qui exploseraient. Voilà, on triplerait le trafic. En fait, après, ils ont quand même fait un petit peu de... Ils se sont rendus compte que ça n'irait pas, parce que contrairement, par exemple, à Paris et Londres, qui sont reliés maintenant avec le train, le tunnel, ça représente une population de 30 millions d'habitants. Okay, donc il y a de la demande potentielle. Oui. Entre Lyon et Turin, en fait, ce sont des métropoles régionales, ça fait 4 millions d'habitants. Oui. Donc il n'y a pas la même demande. Et en termes de fret, il passe 900 000 poids lourds par an au Fréjus et 600 000 au Mont-Blanc. Donc 1,5 million depuis 1993, les chiffres sont stables. Il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de diminution. C'est plus ou moins 1,5 million. Donc, qui fait un train toutes les 12 minutes dans le tunnel, parce qu'il faut savoir qu'il y a des... Sans rentrer trop dans le détail, mais c'est un argument de sécurité qu'on nous oppose. Comme le tunnel est monotube, le tunnel actuel, on ne peut pas faire se croiser des trains. Donc, on ne peut faire passer qu'un train à la fois. Donc, comme le tunnel fait 13 km, on roule à 60, voilà. on peut faire passer 5 trains par heure. Sur 20 heures, ça fait 100 trains. Fois 30 positions, ça fait 3000 poids-lourds équivalents. Sur 300 jours, ça fait 900 000. Donc, deux tiers du trafic actuel pourrait déjà passer sur le rail.
Eh oui, oui. C'est voilà. Bien ce qu'on dit. C'est bien ce qu'on dit. Voilà. Si les politiques, au lieu de démonter le fret public, pouvaient enfin réfléchir intelligemment.
Burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me. Somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for the runaway train. And everything seems cut.
Très bien, nous allons écouter maintenant et nous allons discuter maintenant avec Brigitte Bianassi. qu'on appelle Enchartreuse, hein, que nous sommes à Chambéry, mais nous l'appelons Enchartreuse, pour parler un peu des CCLT locaux. Bonjour Brigitte, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît, à nos auditeurs?
Oui, bonjour. Donc moi je suis Brigitte Bienassi, j'habite à Saint-Pierre-l'Entremont en Savoie, donc dans le haut du massif de la Chartreuse. Voilà.
Ah oui. Un superbe coin, un superbe coin.
Voilà, c'est magnifique, oui.
Très bien. Et donc, vous êtes impliqué, enfin, vous êtes concerné par le projet de Lyon-Turin?
Oui, alors, en fait, avec quelques copains de Chartreuse, on a décidé de créer un collectif contre le Lyon-Turin. Alors, pour ma part, c'est suite à une journée atelier qu'il y avait eu à Saint-Jean-de-Maurienne en février-mars 2023. Et au cours de laquelle on avait visité le chantier de Villard-Rodin, où il y a une descenderie hein, qui est en construction. Et puis, suite au grand rassemblement à la chapelle en juin 2023.
Ah oui, c'est génial. Donc, vous êtes une nouvelle militante. Hein. On a reçu tout à l'heure dans l'émission des militants qui avaient plus de 30 ans sur ce projet. Vous, vous venez de vous impliquer dedans. Très bien. Et alors, donc c'est suite à cette visite. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu plus comment se fait-il que des habitants de communes de Chartreuse, hein, donc un peu loin de Turin, un peu loin de Lyon également, puissent être impliqués comme ça, se sentir concernés comme ça par le projet?
Bah, en fait, c'est un projet assez ancien. Donc, même si là, je me suis engagée que récemment, en réalité, on connaît ce projet-là depuis un moment. Et on sait qu'il va parcourir, qu'il va aller de Lyon à Turin, donc en passant par le massif de la Chartreuse notamment. Donc, je veux dire, il y a des raisons globales, c'est-à-dire que pour dénoncer ce projet inutile, désastreux, qui résoudra aucun problème de pollution et qui mettra pas par magie des marchandises de la route vers le rail, ça c'est des raisons globales, hein, en tant que citoyenne, ça me percute. Et puis aussi, pour des raisons locales, puisqu'il est prévu un tunnel sous Chartreuse. En fait, on parle que de la Maurienne, mais la Maurienne, c'est un tout petit bout du projet. En réalité, il y a bien d'autres tunnels et il y a bien d'autres territoires qui vont être dévastés. Donc le tunnel sous Chartreuse, ça va les deux extrémités, donc c'est Avressieux et Chaparéan. Et donc ça va passer sous les communes de Chartreuse. Ça fait presque 25 km et il est prévu deux galeries techniques. Donc comme à Villard-Rodin le Bourget, une à Saint-Thibaud-de-Coux et une à Averelle-de-Montbel. Donc du coup, on est tout à fait concerné, le massif de la Chartreuse est tout à fait concerné.
De part en part, je dirais, de bas en haut aussi, oui, vous êtes tous concernés. Et, et plus précisément, quels vont être, quand on dit vous êtes concernés, quels vont être plus précisément les impacts sur les habitats, les terres agricoles, les zones sauvages aussi, les zones d'habitation? Qu'est-ce qui vous perturbe dans le fait que...
Bah, en fait, on est concerné parce que ça va défigurer les paysages, ça va impacter beaucoup les communes où il va y avoir les creusements, donc aux deux communes d'extrémité, puis à Averelle et à Saint-Thibaud. Donc vu ce qui se passe là-haut en Maurienne, oui, avec des conséquences qui sont 10 fois plus importantes que celles qui étaient décrites dans le dossier d'enquête publique. Il va se passer la même chose en Chartreuse, hein, donc ça va être terrible. Et personne le sait, les habitants ne le savent pas. Ça, c'est, on va dire, sur les paysages. Sur les habitations, donc il y aura certainement des expropriations. Au niveau des terres agricoles, c'est surtout la Combe de Savoie, la sortie vers Chaparéan qui va être percutée. Après, il va y avoir un mitage un peu partout avec ne serait-ce que les stockages des matériaux qui vont être excavés. Et puis, la grosse incertitude, c'est sur l'eau. Parce que aujourd'hui, le tracé du tunnel passe sous des sources d'eau potable, sous des périmètres rapprochés de sources d'eau potable. Et en réalité, aucune étude n'a été faite là-dessus. Et on est incapable de dire qu'est-ce qui va se passer avec l'eau. Tout ce qu'on sait, c'est que dès qu'on creuse dans une montagne, eh bien, ça draine de l'eau. Ça, tous les scientifiques le disent.
Et oui.
On ne sait pas la quantité, on ne sait pas les effets que ça aura sur les autres cheminements de l'eau dans la montagne, mais on sait que ça draine l'eau. Voilà, et personne n'a fait aucune étude là-dessus, donc c'est très embêtant. Alors ça va concerner toutes les communes qui sont à l'aplomb du tunnel, on va dire, mais pas que, parce que nous, le massif de la Chartreuse, c'est un massif karstique, donc avec des circulations d'eau souterraines qui sont pas prédéterminées, voire même pas prédéterminables, et donc on ne sait pas si en creusant à tel endroit, ça va pas supprimer une source entre Mont-le-Vieux ou Saint-Jean-de-Coup, enfin, on ne sait pas en fait, on ne sait pas. Donc, nous, quand on ne sait pas, on s'abstient. Voilà, c'est ce qu'il faut faire.
Ok, je prends le relais de Philippe. Donc, bonjour Brigitte. Est-ce que bonjour. Vous pouvez quand même nous indiquer et à l'attention surtout des auditeurs où va rentrer le tunnel? Au niveau de Chartreuse. Alors, vous nous avez dit qu'il allait ressortir au niveau de Chapareillan. On voit bien d'ailleurs, quand on passe dans ce secteur en voiture, on a une grande banderole blanche non au Lyon-Turin. Donc, et c'est de là que va sortir le tunnel. Et l'entrée, elle se ferait où?
Ben, au niveau d'Avrecieux. Donc, c'est une commune qui est... qui est à l'est, au nord-est du massif de Chartreuse, nord-ouest plutôt du massif de Chartreuse. Donc c'est une petite commune, hein, et ça va se passer à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça bouge moins. Autant on a entendu Chapareillan se mobiliser, autant je suis même pas sûre que les habitants d'Avrecieux sont bien au courant de ce qui va se passer chez eux. Voilà. Le tunnel de Chartreuse, hein, il va passer, il concerne 14, 15 communes, dont une petite dizaine qui sont dans le parc naturel de Chartreuse, quoi.
Ah oui, dans le parc, oui, ok.
Oui. Je me souviens d'ailleurs, cet été, nous avions fait un rassemblement vers Aoste.
Voilà.
Donc, Aoste, ce secteur-là, donc, sera aussi concerné par le Lyon-Turin.
Mais oui, bien sûr.
Et oui, ouais. Bien sûr.
Et puis, il y a tous les ouvrages d'art aériens, on va dire. Hein. Donc, moi, je vous parle de la Chartreuse parce qu'on va y avoir un tunnel qui va passer dessous. Mais en réalité, il y a une ribambelle d'ouvrages d'art qui vont être installés sur le territoire entre Lyon et la frontière italienne, en réalité. Hein. Ils annoncent donc 59 ouvrages d'art, 6 viaducs. Hein. Donc, des viaducs, c'est des ponts, des cheminements suspendus, on va dire, hein, qui vont impacter le territoire et les paysages de façon très importante. Hein.
Je pensais que le parc naturel régional de Chartreuse protégeait de quand même certaines destructions. Apparemment, ils arrivent à s'en affranchir ou...
Ben, en fait, le parc de Chartreuse, ça n'impose pas de règles contraignantes. Il y a une charte, mais c'est vachement large et on D'accord. peut voilà, c'est pas comme un parc national qui est beaucoup plus contraignant oui, oui. ou une réserve naturelle qui est beaucoup oui. plus contraignante. Et le parc de Chartreuse a été consulté, mais il y a longtemps, hein, je crois en 2011 lors de l'enquête publique. Voilà, et globalement, il y avait encore beaucoup d'incertitudes et le parc de Chartreuse ne s'est pas exprimé contre le projet.
Entendu, c'est très clair. Avant notre dernière question, est-ce que vous avez un message particulier à passer aux auditeurs ou à...
Oui, c'est que donc on s'est constitué en comité, enfin en collectif, pour pouvoir agir localement et faire alimenter le débat public. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même un gros dysfonctionnement démocratique, c'est que on veut sensibiliser les habitants et il y a certaines communes qui s'y opposent. Notamment à Saint-Thibaud-de-Coux, où moi j'ai demandé au maire de pouvoir disposer de la salle communale pour faire une réunion publique, et ça a été non, un non catégorique. Alors pour quelle raison? Première raison, il est très favorable au projet. Deuxième raison, et il l'a écrit, il craint qu'en autorisant cette réunion, il soit pénalisé pour l'attribution de subventions pour les projets de sa commune. Donc là, c'est un amalgame complètement irrationnel, parce qu'il y a bien d'autres communes qui ont laissé organiser en fait ce type de réunion et qui n'ont pas été pénalisés. Moi, je vois, on en a fait une à Saint-Pierre-d'Entremont-Savoie. Il me semble pas que le maire il ait eu peur de ça. Donc, c'est vraiment scandaleux parce que si c'est vrai, Ça veut dire que ça donne une belle idée des critères d'attribution des subventions publiques, hein, qui sont quand même alimentées par nos impôts.
Oui.
Parce que c'est du coup un moyen de chantage et pas un moyen d'alimenter des projets suivant leur qualité. Et si c'est faux, bah, ça donne une idée de l'état d'esprit de menace et de fébrilité dans lequel ça met les élus.
Et
pour continuer sur ce sujet,
Pour
continuer sur ce sujet, Gérard Pégase de Vivre la France 1, en 1991-92, quand nous, dans nos communes, on a monté nos associations, les maires, à chaque fois, nous ont ouvert les portes des salles municipales pour pouvoir faire nos réunions. Il n'y a jamais eu aucun problème.
Oui, c'est surprenant pour Saint-Thibault. Alors, c'est de toute façon, c'est complètement irrationnel et on arrivera à en faire une là-bas. Hein. Si c'est pas dans une salle communale, ça sera dans un terrain privé ou chez un paysan. Je sais pas, on trouvera bien un moyen. Donc, Et d'ailleurs, moi-même, je connais le maire, hein, puisque j'ai été moi-même maire pendant 12 ans, donc je sais de quoi il s'agit. Je lui ai expliqué que ça serait bien, si justement il est pour le projet, qu'il vienne en discuter, ou qu'il envoie des élus pour écouter ce qu'on dit, vérifier si on dit tant de conneries que ça, il n'a même pas voulu ça, quoi, en fait. Donc c'est un refus de débattre.
Ouais, vous parliez de dysfonctionnement démocratique, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, là, c'est clair, et c'est préoccupant, et il est notre devoir de sensibiliser les populations sur ces problèmes.
The next train will be leaving from platform 1.
Bring back.
Et nous allons terminer par vous, Donatien, de l'association Belle Donne en Savoie. Et non, Belle Donne à Savoie, pardon, excusez-moi. Ouais. Et je vous laisse vous présenter.
Eh bien, merci. Donc, Donatien, moi, je suis agriculteur sur la commune de Détrier et adhérent de l'association Belle Donne à Savoie, à Détrier aussi. Une association relativement jeune, parce que on a un an maintenant, et qui œuvre pour informer autour des sujets, des problématiques du Lyon-Turin, puisque on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos autour de ce projet gigantesque, et puis qu'il fallait donc aller chercher les infos, et puis... Quand on arrive à trouver un peu de quoi il en retourne, et ben ça nous donne l'envie et l'énergie de partager cette information pour qu'il y ait le plus de personnes au courant de ce qui se trame en fait.
D'accord. En quoi la commune de Détrier est-elle concernée par ce projet ?
Eh bien, sur la commune de Détrier, quand on étudie la déclaration d'utilité publique de 2012, on se rend compte qu'ils ont prévu de faire une grande zone de chantier pour faire une descendrie. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà abordé le concept de la descendrie avec vos invités précédents.
Allez-y.
Une descendrie, en fait, c'est un espace qui est dédié aux travaux, donc ça prend une dizaine d'hectares au minimum pour le chantier. Il y a des centrales à béton, il y a tous les appareils de forage, de concassage, et l'idée c'est d'aller rejoindre le futur boyau du tunnel qui est souvent assez profondément sous terre, et du coup voilà, à Détrier c'est ça qui prévoit de faire. Donc les descendries, c'est toujours situé dans des zones remarquables, on va dire, parce qu'en fait, quand on creuse un tunnel, on sort des millions de mètres cubes d'eau d'exor, ce qu'on appelle, hein, c'est l'eau qui est naturellement présente dans les montagnes, et quand on va percer à l'intérieur des montagnes, eh ben, ça va faire comme un drain, ça va aspirer l'eau qui circule à l'intérieur des massifs, et toute cette eau, elle ressort par les tunnels qu'on creuse. Du coup, toutes les descendries, elles se trouvent au bord des cours d'eau. En Maurienne, il y en a quelques-unes. Quand on remonte l'Arc, eh ben, on se rend compte que dans tout plein de belles zones qui étaient des zones naturelles, des zones humides, des zones agricoles, des zones d'expansion de l'Arc en cas de crue, ben, c'est là où ils ont tout artificialisé les sols, tout bétonné pour installer ces grands chantiers. Donc voilà, avec les problématiques que ça amène au niveau du drainage des sources, au niveau des millions de mètres cubes de gravats qui sont extraits de la montagne. Ceux-là, faut bien les ranger quelque part. Donc, la méthode actuelle, c'est de déboiser des pans de montagne pour venir entreposer du gravat dessus, quoi. C'est des terres qui seront perdues à jamais. On pourra plus faire pousser un radis dessus. Donc,
Bien
c'est pas
sûr.
des travaux. Souvent, ce qu'ils disent avec ces travaux, c'est des cendriers, c'est que c'est des travaux temporaires. C'est très faux parce que une fois que le tunnel est là, et ben il va dévier tous les cours d'eau qui circulaient naturellement, donc ça va assécher des versants entiers. Et puis les zones recouvertes de gravats, et ben on fera plus jamais pousser rien dessus, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, justement, vous avez abordé le problème de l'eau, qui est crucial, on le sait bien, hein. Et est-il vrai qu'en Maurienne, il y a déjà, dû aux travaux, des habitants qui ont vu leur source d'eau se tarir, et qui sont maintenant livrés en bouteille? Que pouvez-vous nous dire là-dessus?
Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a des communes qui ont vu leur fontaine tarir au moment des creusements des tunnels, des creusements des descendries, notamment à Villard-Audin-Bourget, où il y a une grosse descendrie là-bas.
Ah oui.
Et les sources d'eau du village qui alimentaient les fontaines publiques se sont taries.
Carrément.
Et du coup, ils ont mis en place toute une infrastructure pour aller chercher l'eau bien plus loin sur un autre versant pour réalimenter tout ça parce que l'eau n'était plus là. Donc, ils nous disent qu'il n'y a jamais de problème avec l'eau. Dès qu'on s'adresse un peu soit aux communautés de communes, au département, au préfet, ils nous disent tous qu'il n'y a jamais de problème et qu'il n'y aura pas de problème pour l'eau. Et puis pour ce que vous disiez de l'eau en bouteille, eh ben ça fait partie d'un appel d'offres qu'on a vu passer, un appel d'offres de Telt, donc qui est le maître d'ouvrage
Notre
des
copain.
ouais, qui lui s'occupe des chantiers du tunnel de base, du coup entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse en Italie. Et du coup, ils ont émis un appel d'offres pour approvisionner en eau certaines communes. Alors, j'ai plus le nombre exact, 7, 8 communes, je voudrais pas dire de bêtises, mais pour voilà, dans l'appel d'offres, c'est écrit pour approvisionner ces villages en eau par camion-citerne, par bouteille. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos. Il me semble qu'ils ont répondu quelque chose comme quoi c'était au cas où,
Oui.
mais bon, c'est un peu contradictoire avec le fait qu'il n'y aura jamais de problème sur l'eau, alors que on l'a déjà bien mesuré avec les fontaines de Villard-Audin-Bourget.
Bien
Et
sûr.
puis au niveau de l'eau, il y a aussi quelque chose d'assez parlant. C'est Mediapart qui avait sorti un article là-dessus. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, mais ils ont eu accès à un document interne d'EDF qui gère les barrages. Et du coup, sur un des barrages, le barrage du pont des Chèvres, les relevés piézométriques de ce barrage se sont affaissé de 150 ou 200 mètres au passage des tunneliers qui creusaient dans la zone. Et du coup, il y a eu une grosse perte d'eau. En même temps, ben, elle était dans les tunnels, Telt pompait l'eau qu'il avait drainée en fait à ce moment-là. Et le barrage s'est affaissé de plusieurs centimètres d'un coup, ce qui paraît rien comme ça, mais voilà, c'est dans l'article de Mediapart, ils expliquent bien les ingénieurs d'EDF que c'est quelque chose qui normalement met des dizaines d'années à se passer, et puis là, paf, c'est arrivé d'un coup, quoi. Donc, on voit
Merci
bien.
de cette information. Nous ne manquerons pas de mettre la source en référence, bien entendu. Et on va de surprise en surprise depuis le début de cette émission quant aux dégâts causés par cet échantillon de travaux en Maurienne,
Oui, tout à
c'est
fait.
qui laisse présager rien que maintenant ce qui peut se passer lorsqu'ils vont nous creuser la chartreuse, nous mettre des gravats à détrier, détrier qui au passage ne sera plus détrier. Détrier, je précise pour les auditeurs, c'est une petite commune qui est située à côté de La Rochette. Voilà, bien, nous allons aborder un autre sujet avec vous, Donatien, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien. Qu'en est-il des soutiens politiques par rapport à ce projet de Lyon-Turin et surtout de notre côté, nous opposants à ce nouveau projet de ligne ferroviaire, a-t-on des soutiens un peu politiques au niveau de nos députés, au niveau des maires qui sont concernés par ce projet, qui n'est plus un projet ?
Au niveau politique, je dirais que c'est assez compliqué, c'est très insuffisant à mon sens. On a vu quelques élus nationaux, que ce soit des députés, des sénateurs, qui se sont un peu emparés du sujet du Lyon-Turin quand il y a eu des grandes manifestations en Maurienne.
Oui.
On les a vus aussi un petit peu au moment des élections. Mais c'est un peu toujours le même souci, c'est que, à mon sens, ils sont pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Et personnellement, je trouve ça dommage, et j'ai eu l'occasion de le dire certaines fois à ces personnes, qu'ils ne soient là que quand il y a une effervescence médiatique, parce qu'en fait, ils jouent un peu le même rôle que les médias. À mon sens, quand il y a de la confrontation, quand ça devient un sujet médiatique, et ben là, on a des élus qui viennent. Mais nous, ce qu'on attendrait de ces élus-là, c'est qu'ils nous représentent, qu'ils représentent nos arguments pour pouvoir enfin créer un débat autour de ce Lyon-Turin, parce qu'il n'y a jamais eu de débat réel sur ce projet-là. Personne n'est au courant, donc on parlait de d'étrier où il va y avoir une descenderie, mais c'est la même chose sur toutes les communes qui seront traversées directement par le tunnel. Donc il y a environ, là si on parle des accès côté français, il y a environ 70 communes de Lyon à Saint-Jean-de-Maurienne qui seront traversées, plus toutes les communes limitrophes, si on peut dire, qui vont avoir tous les désagréments des chantiers et qui vont se faire démarcher aussi parce que il faut bien mettre les gravats quelque part. C'est des communes qui, bien souvent, s'il y a des problèmes sur l'eau, sont touchées aussi, hein, parce que les sources et les réseaux naturels de l'eau, et ben, ça dessert pas seulement la commune qui est sur le tracé, mais c'est bien plus large. Ce qui est élus nationaux, moi, je trouve ça très timide, très insuffisant et un peu opportuniste. Après, en ce qui concerne les élus locaux, eh ben, il y en a beaucoup qui se posent des questions. Il y en a beaucoup qui posent aussi des questions à des personnes qui seraient censées leur apporter des réponses, comme le département, la région, la préfecture, mais on leur donne aucune réponse.
Et voilà.
Et ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, pour un élu local, c'est très difficile de se positionner contre ce projet, d'émettre des doutes dessus. Il y a un sentiment de déplaire aux communautés de communes, aux départements, aux préfets, qui peut se répercuter derrière, et ben peut-être par des pertes de financement,
subventions.
Ça c'est pas une légende. Je sais pas si vous avez abordé.
Oui, on a entendu parler de ça.
La démarche Grand Chantier. Ou si on en parle un petit peu, ou si c'est quelque chose que vous avez abordé précédemment.
Vas-y. Oui.
La démarche Grand Chantier, alors moi je suis pas un spécialiste des politiques publiques, mais ce que j'en retiens, c'est que quand tu as un chantier d'utilité publique, pour une histoire de cohésion territoriale, on va dire, le maître d'ouvrage de ce chantier-là a un certain pouvoir sur la destination des financements publics. C'est-à-dire que situé sur un territoire qui dépend d'un périmètre grand chantier, de la démarche grand chantier, et ben si tu veux toucher les subventions publiques, du département, de la Comcom, de la région, de l'État. Tu as tout intérêt à être partisan de ce projet-là, sinon tu peux attendre tes subventions, quoi.
C'est une forme de chantage, ou c'est un chantage carrément, pour les maires qui seraient opposés à ce projet.
Ça peut l'être, et puis peut-être que l'idée de base est belle, hein, pour une histoire de cohésion territoriale. Il
Bien
faut
sûr.
s'il y a un grand chantier, mais voilà, ça s'est peut-être un peu dévoyé.
Tout à
Et
fait.
puis pour parler avec certains élus locaux, il y a aussi le sentiment que si en tant qu'élu local, tu comptais avoir une petite carrière, aller à la Comcom, au département, tout ça, eh ben, tu as tout intérêt à te plier à ces grands projets qui te dépassent, en fait. Tu vas pas te
Bien
mettre
sûr.
à cracher dans la soupe, sinon tu peux oublier de futurs mandats si c'était dans tes plans de carrière, on va dire.
Oui, on a abordé un petit peu ce sujet avec Brigitte Bienassis du côté de Saint-Thibault-de-Coud notamment. Alors, puisque nous sommes un petit peu sur ce terrain politique, parlons un peu des notables. On n'a jamais, depuis le début de notre émission, on a encore pas parlé de l'Italie, de ce qui se passe en Italie. Et on a l'impression que les Italiens, et notamment Notav, sont bien plus actifs qu'ici, avec parfois une répression assez conséquente, des gardes à vue, des forces de police très 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 présentes. Vous pouvez nous parler un petit peu des Notav et du côté italien?
Eh ben, je dirais qu'en Italie, ils ont de l'avance sur nous, que ça soit au niveau de la compréhension de ce qui se joue avec ce projet-là, au niveau des formes de lutte aussi. À mon sens, c'est en grande partie dû au fait que la section italienne, où ils font les travaux actuellement, où ils ont commencé seulement, hein, les travaux du tunnel de base, c'est une zone qui est plus densément peuplée que la Maurienne. La Maurienne, c'est un territoire qui est assez étiré, où il y a relativement peu d'habitants. Et du coup, en commençant en Maurienne, forcément, les promoteurs français font face à moins de protestations de la population. Et quand tu traverses la frontière, tu te rends compte que c'est plus densément peuplé. Donc, il y a eu plus de contestations. Il y a beaucoup d'élus locaux là-bas qui sont farouchement opposés au projet parce qu'ils ont compris ce qui se jouait. Ouais, en Italie, tu as vraiment une ferveur populaire. Il y a des villages où il y a des drapeaux plein les balcons, plein les fenêtres. En Italie, je dirais que ce projet du Lyon-Turin, ça a eu un peu l'ampleur de Notre-Dame-des-Landes en France, dans le sens où
Oui.
il y a des personnes en Italie qui ont déménagé et qui sont venues s'installer dans le Val de Suse pour lutter contre ce projet, comme ça avait pu être le cas pour Notre-Dame-des-Landes, par exemple.
Bien sûr.
Et en France, en attaquant en Maurienne, il y a eu forcément moins de personnes impactées, du coup moins de contestations. Mais c'est pas dit que en attaquant la partie des accès entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne, là, ça va traverser des zones bien plus densément peuplées, ça va toucher plus de monde, et sûrement que ça va réveiller des consciences.
Espérons-le.
Après, eux, c'est leur stratégie, hein, leur façon de communiquer, c'est de ne pas communiquer, ou alors de t'assommer avec un argument d'autorité comme c'est du train, c'est écologique.
Voilà.
Et du coup, ça marche tant que tu t'es pas emparé du sujet. Tant que tu t'y es pas intéressé réellement, tu laisses le monopole de l'information à des gens qui n'y connaissent rien au mieux ou qui sont des menteurs. Mais ça ne peut tenir que le temps que personne ne s'y intéresse. Et par la force des choses, vu les impacts que ça risque d'amener, il va y avoir des gens qui vont se pencher dessus et le rapport de force de ce côté-là pourrait s'inverser, quoi.
Oui, d'ailleurs. Donc, un des arguments qu'on nous oppose, c'est on se dit écologiste, justement. Hein, que ce soit Belle Donne à Savoie, les CCLT, Attac, vous vous dites écologiste et en fait vous êtes contre un projet de train. Mais c'est complètement incohérent vos arguments. Et donc effectivement, je te laisse dérouler rapidement quand même la contre-argumentation des déblais, des déchets, des camions, de la pollution, du bétonnage des terres agricoles, etc. etc. Vas-y, je te redonne la parole.
Eh ben, au risque de choquer, je dirais que le Lyon-Turin, c'est pas une lutte écologique, quoi. C'est une lutte de bon sens, dans le sens où, quand on se penche sur les documents officiels, on se rend compte que, y a déjà une ligne qui existe, qui est en capacité, d'absorber beaucoup de trafic. C'est pas moi qui le dis, c'est pas les opposants.
Oui.
Les
on a déjà détaillé cet aspect-là tout à l'heure. Oui, on a déjà détaillé
donc,
la capacité de la ligne actuelle.
Ouais, et puis tu as plein d'instances gouvernementales comme la Cour des comptes, la Cour des comptes européenne, le Conseil des ponts et chaussées, le Conseil d'orientation des infrastructures. Tous ces gens-là qui sont quand même relativement sérieux et au courant. Que ça soit sur un volet technique du rail, du fret ou sur un côté finance-économie, ces gens-là te disent qu'il ne faut pas le faire, ce projet du Lyon-Turin, que c'est un non-sens économique, que c'est un non-sens écologique. Du coup, ce n'est pas seulement une lutte écolo,
bien sûr,
vraiment
bien sûr.
Pas, quoi. C'est une lutte qui devrait même et qui finira sûrement par toucher. Toutes les personnes, quoi, que tu sois breton ou parisien, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est au moins 30 milliards d'argent public qui vont partir dans un projet inutile, alors même qu'on te dit qu'il n'y a plus d'argent pour ta retraite, qu'il n'y a plus d'argent pour l'enseignement, pour la santé. Donc, c'est loin d'être seulement une lutte écologique.
Si vous voyiez nos têtes en studio, si nous pouvions vous applaudir à tout rompre, nous le ferions bien volontiers. Nous sommes vraiment tout à fait sur la même longueur d'onde.
Un
c'est
grand
trop
merci,
bien.
Un grand merci,
Donatien.
Ben, merci à vous. Belle soirée.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Pour conclure, on entend souvent dire que ce projet ne se fera pas. Qu'en pensez-vous? C'est une question que nous allons poser à tous nos invités. Quelle est, vous, votre opinion sur cette phrase « ça ne se fera jamais, ça ne se fera pas » ?
Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais moi, je ne suis pas aussi confiant que ça. Parce que j'aimerais qu'il ne se fasse pas, ce projet, si on se compare avec d'autres projets qui n'auraient pas dû se faire, que pour différentes raisons. Parce que juridiquement, ils ont été condamnés. Voilà, vous avez, je vous donne des exemples. Hein, le contournement de Strasbourg, par exemple, a été jugé après coup, mais c'était trop tard parce qu'en fait, ça avait été fait. Donc, la 69, là, vous voyez ce qui se passe. Le tribunal a beau dire qu'il faut arrêter. En fait, on redonne encore 2 mois de supplémentaires pendant lesquels les travaux continuent. Donc, moi, ce que je pense, c'est que si on continue comme ça, le projet se fera. Ils ne sont pas pressés. Hein. Le projet, ça fait 35 ans qu'on en parle. Il avance à son rythme.
Je pense que la ligne se fera. Elle se fera pour le ferroutage. Mais le plus difficile après, ça va être pour dire à tous ces transports routiers de monter les camions sur les trains. Quand on voit que la ligne qu'ils ont ouverte à partir de Eton, le morceau Eton jusqu'à Turin, pour le moment n'est pas très développé. Il y a à peine 10% de trafic sur ces trains.
Bah, c'est un peu... Moi, je veux que ça ne se fasse pas. Aujourd'hui, oui, bien sûr, j'y crois.
Super.
Alors, pourquoi j'y crois? C'est que, en fait, on nous en met plein la tête avec ça, mais le tunnel, le projet, il est très peu avancé.
Pour l'instant, quand on regarde les chiffres officiels de l'avancée des travaux, alors la dernière source fiable que j'avais, c'était un article de mai dernier du magazine Que Choisir, qui avait fait une enquête là-dessus. Ils étaient à, je ne sais plus, entre 11 et 13% des 115 kilomètres du tunnel de base entre Saint-Jean-de-Maurienne et l'Italie. Mmh. Ils ont commencé à creuser en 2002, donc ça fait 23 ans maintenant. Et en 23 ans, ils n'ont pas fait 15% d'un des tunnels, parce que des tunnels, ils en prévoient 7 ou 8.
Par rapport à l'ensemble du projet, on a creusé 5% de la longueur des tunnels. Donc on nous fait croire que ben non, c'est trop avancé, donc on peut pas arrêter. C'est faux, on peut tout à fait arrêter. Sachant que l'ensemble des autres infrastructures, l'état d'avancement, c'est zéro.
Et ils font tout en fait pour montrer que le projet se fait, parce que l'essentiel des travaux quand même et des coûts, ça se passe sous terre. Hein. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Si vous allez à Saint-Jean-de-Maurienne, vous voyez qu'ils ont commencé à les travaux pour la future gare et les rampes d'accès. Ils installent des bandes transporteuses aussi pour les gravats. La vallée est déjà défigurée. L'enjeu pour eux, c'est de montrer qu'ils occupent le terrain, que le projet se réalise et donc qu'il devient irréversible.
C'est du passage en force.
Voilà, c'est du passage en force. Et comme je disais tout à l'heure, il n'est pas trop tard pour arrêter, parce que si on regarde l'ensemble des coûts, enfin l'ensemble du projet Lyon-Turin avec ses accès, etc., on est à 2%, enfin 3 ou 4% de creusement, d'accord ? Et on va dire que ça représente 50% des travaux, le reste c'est l'aménagement, donc on est à 2% d'avancement des travaux au total. Donc il n'est pas trop tard, quand on fait une bêtise, pour s'arrêter.
Donc on peut très bien arrêter, il suffit d'avoir la volonté politique de le faire.
Quand tu as fait 5% d'une connerie, bon, bah, c'est toujours le temps d'arrêter, quoi. Mais pour t'aider à arrêter ta connerie, bah, c'est bien s'il y a de plus en plus de monde qui te disent bah, « t'es en train de faire une connerie ».
Exactement.
C'est notre message aujourd'hui, je crois qu'on a bien compris.
On va terminer là-dessus.
C'est bien le message du jour.
Merci à nos invités pour la richesse de leurs informations. Il nous semble compliqué, au vu de leurs témoignages, d'être indifférent à ce projet et de ne pas lutter contre. Et si vous pensez ne pas être impacté, détrompez-vous, nous le serons tous. Attac se positionne contre ce grand projet imposé et inutile qui est un non-sens économique et écologique. Si notre première émission vous a impacté, si vous souhaitez vous mobiliser, vous informer davantage, vous trouverez des liens sur le site. On vous invite également à une grande mobilisation contre le Lyon-Turin le samedi 12 avril à 14h, place du Palais de Justice à Chambéry. Nous revenons pour notre deuxième émission le 28 mars où nous allons encore aborder un sujet d'ampleur, les Jeux Olympiques dans les Alpes. À bientôt. Soyons d'attaque. Soyons d'attaque. Une émission d'information et de débat proposée par Attaque Savoie.